Alors, Lise, la presse nous apprenait un autre cas d'enfant qui a été brutalisé. La presse révélait qu'un enfant autiste de 6 ans avait été battu à répétition pendant 4 mois après que la DPJ l'eût placé dans un foyer pour adolescents. Il a fallu l'intervention d'un juge pour que finalement il en soit déplacé de ce foyer là, pour adolescents. Et évidemment, il y a eu des réactions très vives encore de la part du gouvernement. Des mesures majeures doivent s'imposer pour améliorer la protection de la jeunesse. Et tout ça survient dans une journée où on nous a présenté le fameux rapport d'enquête interne du CIUS sur la mort de cette fille de 7 ans à Granby.
D'ailleurs, Paul, on remarque là qu'il s'agit de la même DPJ, c'est-à-dire Montérégie, dans les deux cas. Et on se rappellera que lorsque la petite fille a été trouvée, est morte, le patron de cette DPJ-là a été limogé. Je ne sais pas où il a atterri dans le système, mais il n'est plus en charge d'une DPJ et... À un moment donné, il faut que la personne qui est en haut de la pyramide aussi prenne responsabilité pour ce qui se passe, même si c'est pas eux qui ont eu nécessairement les mains sur les manettes. Alors, il y a la commission de Mme Régine Laurent, d'ailleurs, quel choix intelligent d'avoir pris cette femme-là, très engagée et qui connaît le milieu de la santé, le milieu social. Alors, elle va enquêter pour savoir qu'est-ce qui va pas dans les DPJ et puis comment on peut mieux faire. Mais moi, je prédis déjà une grande partie de ce que son rapport va nous annoncer. Et je pense qu'il va nous annoncer que c'est surtout une question de manque d'argent. Et je suis toujours un peu sceptique par rapport à ces choses-là. Je me dis, oui, d'accord, mais bon, gaspillage, est-ce que c'est dépensé aux bons endroits? Mais je pense que dans ce cas-ci, là, on fait vraiment face à un problème de financement. Il faut pas oublier une chose, c'est qu'au Québec, on est rendu à plus de 100 000 signalements par année. De ce nombre-là, plus de la moitié sont retenus. C'est quand même pas rien. Et ça coûte cher. Et c'est beaucoup de monde. Et on sait que, même s'il n'y a pas nécessairement eu des coupures dans les ministères, dans les organismes, il y a bien des choses qui sont passées à la trappe. Et je ramène ça un peu à ce type dont j'ai malheureusement oublié le nom, employé du ministère des Transports, quand le Journal de Montréal a fait sa série sur l'état des routes. Mm-hmm. Il y a un employé du ministère qui a dit « La vérité, c'est qu'on n'a pas l'argent nécessaire pour faire le travail comme il faut. »
Exactement.
Et j'ai trouvé...
C'est clair.
Que c'était historique. J'ai trouvé que c'était historique parce que très souvent, on se doute que c'est ça, mais personne n'ose le dire. Les poches des contribuables ne sont pas, évidemment... c'est pas un Québec de milliardaires. D'ailleurs, Mario Dumont nous rappelait qu'il y a encore 15 000 $ par ménage d'écart entre nous et les ménages ontariens au niveau des revenus.
Ouais.
C'est quand même beaucoup.
Mais c'est un aspect qu'on l'aime ou non, ce jugement, il est implacable. Que veux-tu, Lise? Si tu n'as pas les moyens d'aller plus loin, d'investir encore plus, t'as raison de souligner que l'état des routes en est un bel exemple, mais dans le domaine de la prévention et de la gestion de cas aussi difficiles, ça prend des ressources aussi.
Ressources puis de l'intelligence puis du doigté, parce que c'est sûr que la réforme du docteur Barrette avec la centralisation puis les méthodes de production à la Toyota et ainsi de suite, je suis persuadée que ça a pas aidé, ça a dû même ben des gens qui ont dû partir à cause de ça, parce que il y a juste un mot pour décrire ça, c'est absurde, mais absurde avec des conséquences réelles. Et j'espère qu'on va se poser les bonnes questions, parce que oui, on peut arranger les structures, les organismes, on peut mettre de l'argent, embaucher des gens, on peut tout faire ça éventuellement. Mais moi, j'aimerais que quelqu'un m'explique comment ça se fait qu'on est rendu avec autant d'enfants en danger au Québec en 2019, malgré tout, société riche. Moi, il y a quelque chose, je pense qu'il y a des questions qu'on n'ose pas se poser sur l'organisation sociale d'aujourd'hui. Et si on se les pose pas, à mon avis, Paul, puis bon, c'est une opinion, hein? Si on se les pose pas, un jour, on va se retrouver avec un problème intractable dont on pourra plus sortir. Il est le temps de se demander, est-ce que le Québec est vraiment fou de ses enfants?
C'est bien dit, effectivement. Merci. Pour citer un auteur qui l'a...
Camille Bouchard qui avait posé la question bien avant.
Alors, il faut en finir avec les accusations de traîtrise, selon toi, à chaque fois qu'un francophone... Mais mon ami Gilles Proulx est un homme qui est implacable et intolérant. Alors, Gilles, tu le connais bien, Lise.
Il a dit
que Pierre Fitzgibbon, le ministre, était un colonisé. Parce que quand il allait en dehors du Québec en mission... Il utilisait surtout l'anglais.
Oui, à l'Ontario. Il est venu en Ontario, fait une mission commerciale et il n'a pas parlé français. Bon.
Et il a été rappelé à l'ordre par François Legault.
Oui, par son premier ministre, qui l'a très bien fait. Et je pense qu'une des choses que les gens apprécient de François Legault, puis on l'a vu dans le limogeage du patron de la DPJ de la Montérégie, il agit rapidement. Il a quelque chose à dire, il n'attend pas une semaine. C'est là que ça se dit, et c'était très bien dit. Et puis, il a réussi à dire ça sans humilier M. Fitzgibbon. Et je pense que c'est la chose à faire. Je suis persuadée que M. Fitzgibbon ne refera pas cette erreur. Certaine. Mais moi, c'est une conversation que j'ai avec des amis, on pourrait dire, très nationalistes, certains souverainistes, certains pas, pour dire, mais pourquoi à chaque fois que quelqu'un prend un chemin un peu différent, rapidement, on en arrive à coloniser, traître, fédéraste, tous ces qualificatifs qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Et moi, je leur dis tout le temps, oui, mais c'est avec du miel qu'on attire les mouches. C'est pas avec des coups de bâton. Si vous voulez que les gens regardent le Québec autrement, ressentent, vivent le Québec autrement, faut arrêter de les accuser d'être décolonisés. Parce qu'il y en a plusieurs, je suis persuadée. Moi, tu sais, les fédéralistes mous, là, qui savent pas trop d'une élection à l'autre. Si ces gens-là se font insulter en public par des personnalités, ben, il est possible qu'à un moment donné, ils tournent le dos et disent « je vais aller faire autre chose ailleurs ou je vais arrêter de m'en occuper ». S'il vous plaît, amis nationalistes, soyez avec moi, soyez gentils.
Lise, il faut parler.
Je sais pas ce qui m'a pris.
Mais ça vient peu. Ça va peut-être apaiser notre ami Gilles.
Moi aussi, c'est un ami. Mais des fois, je veux pas me dire...
Non, c'est parce que Gilles, là-dessus, est intransigeant.
Oh, je sais.
Intransigeant. Ben oui, c'est ça.
Mais il y a
peut-être en partie raison aussi, quand même.
Il n'y a pas totalement tort, mais c'est pas beau quand un peuple...
Non, mais quand un
unilingue... À l'intérieur, on se raconte des... Ah ben oui, mais là, on parle de Fitzgibbon, c'est pas un unilingue.
C'est ça. Non, c'est ça. Alors, on a abordé, je pense, toi et moi, la question. En tout cas, j'en avais beaucoup parlé avec Marie-France Bazot. Et c'est devenu un dossier épouvantable pour Justin Trudeau en cette année électorale. La Chine, encore aujourd'hui, sur un ton condescendant, et ça, c'est inhabituel d'habitude de la diplomatie chinoise, a rappelé au Canada de ne pas être naïf après les propos du premier ministre canadien qui se disait persuadé que le sort des deux Canadiens emprisonnés en Chine avait été abordé lors du sommet du G20 par M. Donald Trump, le président américain, et Xi Jinping, le président chinois. Imagine-toi, les Chinois rappellent aux Canadiens, ne soyez pas naïfs envers les propos de votre premier ministre. Non. On n'a jamais abordé la question des deux Canadiens qui sont détenus par les autorités chinoises. Écoute, c'est comme une claque sur la figure. Ça fait petit, non?
Oui, ça fait très, 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 très petit. Ça fait minuscule. Il y avait un personnage de science-fiction en Angleterre à l'époque qui était un robot qui disait tout le temps des humains. Je n'arrive pas à comprendre comment ils font pour vivre à l'intérieur de quelque chose de si petit.
mais c'est parce que on a l'impression de ratisser à tous les jours avec le dossier chinois, qui n'est pas facile d'ailleurs à gérer, à cause de l'arrestation et de la détention de Meng Wanzhou, la dirigeante de Huawei.
De Huawei, maintenant, je suis capable de le dire, sans m'enfarger.
Huawei.
Merci, Huawei.
Ouais,
mais sérieusement, là, c'est vraiment, le Canada est vraiment coincé entre, évidemment, sa proximité des États-Unis. Puis, on le sait, Donald Trump peut faire énormément de tort au Canada si ça lui chante du jour au lendemain, importation de voitures et ainsi de suite. Lui, il n'y a pas de problème avec ça, de couper les liens commerciaux. Et de l'autre côté, la Chine qui, aujourd'hui, emmène très large et qui est un gros marché pour le Canada. Même si on est nous aussi en déficit commercial parce qu'on achète beaucoup plus de la Chine que la Chine n'achète de nous, mais quand même, il y a des agriculteurs, des éleveurs qui se retrouvent pris entre deux puissances, les deux plus grandes puissances mondiales, la Chine et les États-Unis, et le Canada est pris entre les deux alors qu'il n'a rien fait.
Non.
Tout ce qu'il a fait, c'est d'arrêter quelqu'un. On lui avait demandé, il y a un traité. C'est comme ça, c'est de même que ça ne marche, état de droit, et ainsi de suite. Mais les Chinois, évidemment, quand ça fait leur affaire, ils sont bien d'accord, puis quand ça fait leur affaire, ils ne sont pas. Je ne sais pas comment on va s'en sortir de celle-là.
Je ne le
vois pas.
Moi, je redis toujours ça au fait qu'on est en année d'élection. Et pour l'opposition, oui, c'est du bonbon de voir Justin Trudeau dans l'eau bouillante avec ce dossier-là, de voir sa ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, dans l'eau bouillante, non seulement avec la Russie, mais aussi avec un dossier aussi épineux. Alors, évidemment, pour l'opposition, c'est du bonbon. La question que je pose, c'est qu'un changement de gouvernement, et s'il n'y a pas un changement de situation avec la Chine, est-ce qu'ils vont pouvoir faire mieux? C'est-à-dire qu'on est coincé, comme tu l'as dit, entre deux éléphants. C'est pas compliqué. Alors, le moindre moment que tu essaies de te déplacer à droite ou à gauche, tu vas finir par recevoir une patte d'éléphant sur la tête.
Oui, et on sait que et ça gueule.
Oui, avec des conséquences.
Avec des conséquences. Oui, mais rappelons-nous, quand Stephen Harper est arrivé au pouvoir, à l'époque où il était encore en situation minoritaire, premier gouvernement Harper, il avait décidé de jouer dur avec la Chine. Il avait décidé que la Chine, c'était un pays communiste totalitaire, ce que c'est, et que c'était pas un gentil parti communiste, et qu'il allait jouer à celui qui a plus d'éthique et de morale et se tenir assez loin d'eux. Ça a été une catastrophe.
Oui.
Les Chinois l'ont très mal pris. Ça n'a pas été beaucoup discuté à l'époque, mais au sein du gouvernement conservateur, oui. Parce que c'est un peu comme Donald Trump qui dit « Je ne veux plus de libre-échange », alors que les Républicains ont toujours été en faveur du libre-échange. Là, Harper arrivait avec une position qui était vraiment à l'opposé de ce que le Parti conservateur canadien avait prôné, c'est-à-dire l'ouverture des marchés. Alors, je vois pas comment un nouveau gouvernement, puis je suis pas certaine que si Andrew Scheer devient premier ministre, que c'est l'homme de la situation pour regarder Xi Jinping directement dans les yeux et lui dire « ça va faire ». Hein? Ouais, ouais. J'ai bien de la misère à imaginer ça.
J'ai autant de misère que toi. Merci, Lise. À demain.
Grand plaisir.
À demain.
À demain.